Bonjour à tous. Que la parole du Seigneur nous permette d'être dans la lumière et qu'il nous dissipe nos brouillards dans lesquels nous sommes si souvent. Je vous propose un passage dans Éphésiens 3. Alors ce chapitre 3, pour moi, c'est comme une forêt très dense. C'est tellement riche et on va juste couper quelques arbres. Parce que déjà, on ne connaît pas toutes les essences, mais on va juste prendre ce qu'on comprend déjà. Mais ce passage, il est tellement fort. C'est Paul qui écrit, et nous allons juste lire les versets 8 à 12. Après, nous allons un peu piquer dans le reste du passage. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. A priori, quand on lit ce passage, on a un peu de peine à enregistrer, n'est-ce pas ? Ce passage nous parle de mystère. Un passage donc extrêmement dense, où Paul, sous l'onction du Saint-Esprit, veut nous faire réaliser quelle est l'utilité de l'Église. Je ne sais pas si vous avez juste remarqué ce passage. Quelle place elle a dans l'histoire de l'humanité, mais aussi par rapport aux puissances célestes. Il est dit ici que celui qui a créé toutes choses, afin que les dominations... afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc l'Église est surveillée, est visionnée par les puissances célestes et elle a une action dans le ciel. Mais revenons déjà sur terre. Quelle utilité à l'Église, quelle place a-t-elle dans l'histoire de l'humanité ? Pour les Juifs de l'époque de Paul, le fait que des païens, des gentils, des non-juifs comme on les appelait, puissent accéder au peuple de Dieu était une révolution incroyable. Israël, c'est le joyau de Dieu et tout à coup, on rajoute. Et seuls ceux qui sont croyants, que ce soit des juifs qui croient en Christ ou croyants issus des païens, seuls ceux-là font la nouvelle assemblée de Dieu. Au verset 6, il nous est dit « Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. » Tout à coup, les païens font partie de ce corps, sont co-héritiers. Le Créateur de tout a écrit l'histoire de l'humanité et nous en a laissé le scribe, le scénario, si vous voulez. Ça, c'est un formidable scénario de l'histoire de l'humanité. Ce qui s'est passé pour la création, ce qui s'est passé au fil du temps et ce qui va se passer. Aussi, notre vécu est déjà relaté là-dedans. C'est un merveilleux livre, mais souvent on préfère juste regarder le film, n'est-ce pas, que de lire tout le livre. Et là, on pourrait en faire des scénarios ou en ressortir des films, mais Dieu a écrit ce scénario pour nous. Et nous sommes acteurs, nous ne sommes pas seulement là à contempler. Au commencement, Dieu a créé Adam, puis Ève. Il y a eu un certain temps, et du temps de Noé, tout était déjà fichu. On ne regardait plus à Dieu, chacun faisait ce que bon lui semblait. Et il reste 8 personnes, mais issues de Adam, qui survivent au déluge. Nous allons un peu plus loin, nous trouvons Abraham, son petit-fils Jacob, qui a 12 fils, 70 personnes qui descendent en Égypte. C'est le scénario de Dieu, hein, ce n'est pas la fatalité. Même s'il y a eu une famine qui les a poussés, ou s'il y a eu de la jalousie qui a envoyé Joseph. Environ 400 ans après, ce sont 600 000 personnes, sans compter les enfants, qui ont quitté l'Égypte, qui ont été mises à part. Vous êtes mon peuple. La naissance d'Israël, c'est la Pâque, en terre promise à Canaan. L'histoire d'un peuple qui a des règles de vie qui surpassent toutes les pratiques des autres nations. Regardez, les peuples avaient de la crainte et les peuples voyaient la main bénissante de Dieu sur Israël. Le peuple fait confiance à la direction de Dieu, il est béni, et aucun autre peuple ne peut lui résister pendant la prise de Canaan. Mais dès que Israël se détourne des directives de l'Esprit ou de l'Éternel, il plonge exactement dans le même chaos que les nations rebelles. Et comme aujourd'hui, le monde a des tentations à offrir, à l'époque déjà, souvent c'était des histoires de femmes. Les peuples cananéens offraient leurs femmes aux garçons juifs, et elles savaient faire, elles savaient séduire, et le monde a les mêmes armes aujourd'hui. Dès que Israël se détourne, ils sont dans le même chaos. Et c'est à cause de la fidélité de Dieu que le peuple existe toujours. Plusieurs fois, il a failli les rayer de la carte. Parfois, il y a eu des intercesseurs comme Moïse qui ont dit « Seigneur, que diront les peuples si tu détruis Israël ?» Mais c'est à cause de sa propre fidélité que ce peuple est encore là. Ce n'est pas à cause de la fidélité d'Israël. Et dans le scénario de Dieu, Israël va encore prendre une place importante à l'avenir. Et nous avons des soubresauts de ce qui se passe. Mais malgré les règles de vie parfaites, le constat est qu'aucun homme ne peut satisfaire les exigences de sainteté pour mériter de passer l'éternité auprès du Seigneur de l'univers. Aucun. Depuis la chute en Éden, Dieu avait conçu un plan de rescue, comme on dit aujourd'hui, de sauvetage du fleuron de sa création. Il voulait sauver l'homme. Et dans le plan, il y avait Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus est venu d'abord vers Israël. Il est l'agneau parfait, sacrifié pour ôter le péché du monde. Lui, le Saint, le pur, le Fils de Dieu, il a réglé le problème qui n'était pas solutionnable autrement, le problème du péché, par la séparation d'avec Dieu, pour les Juifs d'abord et pour tout homme descendant d'Adam, quel qu'il soit. Si l'homme accepte la corde tendue pour le tirer de sa misère, il ne peut faire qu'autrement, lever le bras et accepter la miséricorde, en reconnaissant son état de perdition absolue et sa propre incapacité de se sortir de l'emprise de Satan et du péché. On peut toujours se leurrer et dire « j'y arriverai ». C'est les illusions, mais tant que le Saint-Esprit n'a pas touché les cœurs, dans le monde, on pense toujours pouvoir améliorer les choses jusqu'à instaurer le paradis sur terre. Après avoir accompli sa mission terrestre, vaincre la mort, justifier tous ceux qui croiraient, en faisant confiance au sang de l'agneau pour les purifier, Jésus est remonté au ciel pour laisser ses disciples répandre l'évangile, la bonne nouvelle. C'est ce que Karine vient de nous citer tout à l'heure. Et à Pentecôte, 10 jours après, il a accompli sa promesse d'envoyer un assistant puissant pour soutenir, inspirer, équiper pour des œuvres surnaturelles. Guérison, résurrection, audace, proclamation de salut. Ça, c'est Pentecôte. Ce jour-là, les croyants réunis ont porté la première fois le nom d'Église. La naissance de l'Église, c'est Pentecôte. Et Église, c'est Ecclesia, ça veut simplement dire assemblée. La réunion de ceux qui appartiennent au Seigneur, ça c'est l'Église. Ce ne sont pas les bâtiments, ni celui-là, ni d'autres qui sont beaucoup plus beaux, n'est-ce pas? C'est une révolution pour les Juifs. Le peuple de Dieu de cette nouvelle alliance comprend aussi les païens. C'est incroyable pour eux. Et ils ont eu un peu de peine à l'admettre. Vous vous souvenez quand les premiers se sont convertis, comme chez Corneille, comment Pierre a été repris par les autres? Pourquoi es-tu allé vers les païens, les non-juifs? Et comme nous l'avons vu, les païens croyants ont le même héritage que les juifs croyants. Ça, pour un juif, c'était incroyable. Et donc, ils ont dû comprendre, surtout eux, et nous aussi parfois, qu'il faut quitter cette quête de justification par la loi et accepter la grâce imméritée de Dieu. Pour un préalable à cela, c'est les versets 14 à 19 de ce passage. C'est Paul qui dit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, et qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Et je crois que ça, c'est l'œuvre de toute une vie, de comprendre les dimensions de l'amour de Dieu. Chaque fois que nous croyons avoir cerné, il y a d'autres facettes qui s'ouvrent, et chaque fois que nous trébuchons, nous ne pouvons que reconsidérer ce que c'est que l'amour de Dieu. C'est immérité, et il est tellement vaste, tant que tu reviens à lui, tu es accepté. Il faut bien toute une vie pour comprendre, intégrer, mesurer l'immensité de l'amour de Dieu. Depuis la Pentecôte, l'Église est la vitrine de l'action de Dieu pour le monde visible et invisible. C'est à elle d'annoncer par la parole, par sa présence, par sa vie, le salut aux hommes. C'est à l'Église. Et elle peut compter sur la puissance du Saint-Esprit. C'est l'Église qui détient la révélation des choses passées et celles à venir. Nous l'avons dans la Bible, nous l'avons par l'Esprit Saint. Et vous avez vu, c'est par l'Église que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent la sagesse, aujourd'hui la sagesse infiniment variée de Dieu. Incroyable, les quelques personnes rachetées, là, ce ramassis de rachetés, est une lumière pour les puissances des ténèbres ou les puissances célestes, pour l'ennemi aussi. Imaginez les êtres célestes, les anges, le monde invisible dont nous n'avons que quelques indices dans les Écritures, du temps de Job, d'Akab. Vous vous souvenez de ces passages? Je vais juste résumer. C'est du temps de Job où Satan se présente devant Dieu et Dieu lui dit « Tu vois Job, mon serviteur ?» Et Satan qui se met à dénigrer l'amour de Job pour son Dieu. Chez Akab, Akab devait tomber et Dieu demande à des esprits « Qui ira séduire Akab ?» je crois que c'est dans Un Roi ou Deux Rois, qui ira le séduire? C'est des choses qui se passent dans le ciel, hein, parce que Akab était tombé très loin de Dieu. Daniel a eu un regard vers Dieu, et quand Daniel a appelé Dieu, l'ange lui a dit, il y a de la bagarre là-haut, hein, là, les puissances se battent et j'ai été empêché de venir, et l'archange a dû venir me défendre pour que je puisse accéder à toi. Donc il y a des choses qui se passent. Tous ces êtres ont vu la création. Ce sont des êtres qui n'ont pas de début comme nous ou de fin comme nous, en tout cas pas si court sur cette terre, comme nous sur cette terre, peut-être un siècle pour les plus vigoureux aujourd'hui. Ils ont vu les interventions de Dieu, ils ont vu la perfection dans l'homme, la chute, la montée et la chute de tous ces empires dont nous savons par l'histoire. Ils ont connu l'annonce, la naissance, le service, la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus. Et là, tout à coup, ce nouveau machin, l'Église, peut-être pour ses puissances, c'était aussi la fin, avec quand Jésus est remonté au ciel. Et ils ont vu la fondation de l'Église. Ils voient Pierre et Jean transcender. Quelques jours avant, ils avaient fui. Aujourd'hui, ils proclament sans crainte, guérissent au nom puissant de Jésus. C'est le début de l'action de l'Église. La puissance de Dieu qui descend sur tous les croyants, tout à coup, dans le lieu où ils étaient réunis, la puissance de Dieu, le feu de Dieu qui descend. Et dehors, ça se remarque. Pour les hommes, le plan de Dieu est dévoilé au fur et à mesure de sa réalisation, hein, un déroulé, au fur et à mesure. Mais le Seigneur avait tout écrit à l'avance. Le dessein éternel qu'il a mis à exécution, en Jésus-Christ au verset 11. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est Paul qui le dit. Depuis la Pentecôte et jusqu'à l'enlèvement, l'Église sera le joyau de Dieu sur terre. Je bâtirai mon Église, a-t-il dit à Pierre, a-t-il dit aux disciples. Je crois que Dieu est aussi jaloux de l'Église que d'Israël dans l'Ancien Testament. Dieu veille sur elle. Dans 1 Pierre 1, les versets 10 à 12, nous pouvons lire. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous a été réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses et qu'ils vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Les anges désiraient voir ces choses que l'Église réalise. Ces anges voulaient voir ce que le Seigneur ferait pour continuer sa présence sur terre. Nous sommes des privilégiés et nous le réalisons si rarement. Les prophètes, même jusqu'à Jean-Baptiste, ils attendaient ces choses, ils n'ont pas vu la réalisation. Nous nous connaissons tout cela, qu'en faisons-nous? Ce à quoi nous avons accès par l'Écriture et par le Saint-Esprit, les prophètes le cherchaient à l'entrevoir, à le comprendre. Et les anges désiraient y plonger les regards. L'Église est l'épouse, selon la Bible, celle qui consciemment se prépare à la venue de l'époux. Nous ne sommes pas juste là pour nous retrouver bien ensemble, même pour chanter. Elle se prépare pour la venue de l'époux. L'Église, ce n'est pas les bâtisses en briques, plus ou moins belle, Dieu habite dans des cœurs de chair et non des édifices, si beaux soient-ils. » Déjà dans le temple, il a dit, vous pouvez installer un temple, mais je n'habite pas dans le temple. Il s'y est manifesté, mais il ne s'est pas laissé enfermer là-dedans. Les églises locales sont comparées à des chandeliers. Dans Apocalypse 1, le verset 20, il y a un chandelier de bouxulaire quelque part, au ciel. Par Jean, Jésus a écrit à diverses églises locales, dans Apocalypse, les sept églises. Toutes sont invitées à se concentrer sur leur mission. Le Seigneur fait un bilan pour chacune. Il se présente tout d'abord à chacune comme le Tout-Puissant. Une fois c'est l'agneau, une fois c'est le roi, une fois c'est un guerrier. Mais chaque fois, il se présente et il n'y a aucune équivoque, c'est Jésus qui se présente à son Église. Il connaît les circonstances de ce que chacune vit, c'est lui le maître. Il encourage, reprend, dénonce et promet aussi. Il est proche et ne veut en perdre aucune, ni une église, ni les individus qui la forment. Car dans son plan, il vient bientôt enlever son église. Alors certains disaient, mais pourquoi il n'est pas encore là? Il est en retard. Il use de patience, comme le dit Paul. Il ne prend pas de retard. C'est le bon berger. Il ne veut qu'aucun de nous ne manque à l'appel le jour où il enlève son église. Et ce jour-là, le Saint-Esprit sera retiré avec elle. Avec l'église, quand Jésus aura enlevé l'église, il n'y aura plus de Saint-Esprit sur terre. Ce sera le chaos absolu. Par notre présence, nous empêchons encore la corruption du péché de rompre sa digue. Il est partout, mais il est encore retenu. La pression du monde et des puissances des ténèbres augmente. Soyons de plus en plus un édifice de pierre vivante. Déposons notre avenir dans sa bonne main. Ça, chacun individuellement, tous les jours. Il y a encore une moisson à rentrer. Ne baissons pas les bras. Chacun avec les dons que nous avons, nous devons être des moissonneurs. L'un prendra une grosse moissonneuse, l'autre la faucille, un tout petit bout de terrain, mais chacun, avec une parole, une action, nous sommes des moissonneurs. Ce n'est pas l'affaire de spécialistes, nous n'avons pas besoin de dire « je ne sais pas faire ». Il y a un équipement, avec les dons que nous avons chacun, nous pouvons inciter d'autres à se confier en l'Éternel. L'équipement, les dons sont donnés. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous ne sommes pas des champions. Aucun de nous. Hein. Bon, s'il y en a, je veux bien. En tout cas, je ne me sens pas un champion de Dieu. Mais ce que Jésus attend de nous, c'est juste de communiquer l'Évangile, la bonne nouvelle, à nos contemporains. Et notre monde vit dans des ténèbres. Et il y a plein de gens qui sont dans la défaite, qui sont dans la dépression. Une parole. Ce n'est pas notre esprit de conviction, nos atouts. C'est une parole opportune que le Seigneur veut utiliser. Mais ne nous taisons pas là où nous pouvons parler. Jésus veut encore nous faire du bien aussi. Il veut que nous soyons au service des autres, mais il veut aussi nous faire du bien à chacun. Dans ces églises de l'Apocalypse, il leur a promis de les fortifier. Il aime nous voir le glorifier, le louer aussi ensemble. Ça aussi, c'est l'Église. L'Église est le lieu privilégié pour se porter, pour se supporter, pour refléter l'amour de Dieu. Alors, une question. Es-tu parti de cette Église ou es-tu parti? Es-tu une partie? Un morceau? Ou es-tu parti dans ton cœur et tu te dis, ça ne me dit plus rien. De l'Église. Si ce n'est pas ici, c'est ailleurs. J'ai juste une incitation pour chacun d'entre nous. Cette semaine, il serait bon que chacun d'entre nous relise les chapitres 2 et 3 d'Apocalypse, les lettres aux sept églises, et entende ce que le Seigneur veut lui dire. La moisson, le maître de la moisson attend chacun, de chacun et de l'assemblée des choses, et dans ces lettres, nous pouvons trouver les révélations de Dieu pour chacun d'entre nous. Nous avons besoin, ensemble aussi, d'avoir des objectifs, pas humains, mais que le Seigneur nous fixe. Comment nous pouvons encore opérer dans ces temps de la fin. Amen. J'aimerais prier. Père, toi tu aimes ton Église, cette assemblée de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Tu connais chacun d'entre nous. Comme nous l'avons entendu, Seigneur, nous ne sommes pas des champions. Nous voulons humblement te demander de nous utiliser comme des outils, que ce soit des panneaux indicateurs, une truelle, un marteau, Seigneur, ce que toi tu veux faire de nous. Utilise-nous, que ton Esprit Saint nous anime, Seigneur, pour faire tes pensées. Amen.